I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour. C'est moi, Orson Welles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute.
Salut, c'est nos ciné, votre rendez-vous avec le cinéma qui vous arrive là tout de suite en version courte, l'Extra Ball, notre petite sortie de route régulière qui nous offre l'occasion d'aborder pendant quelques minutes une sortie du moment. En l'occurrence, on va causer de Tomb Raider, nouvelle tentative d'adaptation au cinéma de la célèbre franchise de jeux vidéo dont on va parler ici à l'antenne Paris avec mon camarade Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane.
Salut Thomas.
C'est nos ciné Extra Ball spécial Tomb Raider et c'est parti.
Monde de merde. Pourquoi il a dit ça? C'est ce que je veux savoir.
Tomb Raider, donc, c'est la troisième fois que les aventures de Lara Croft, qui nous ont offert quelques grandes heures de jeux vidéo dans les années 90, sont portées au cinéma. On se souvient avec douleur des deux films, avec Angelina Jolie au début des années 2000, deux gros navets très cuits, et un échec au box-office pour le second volet. 15 ans plus tard, la franchise est donc rebootée. C'est désormais la Suédoise Alicia Vikander, oscarisée pour son rôle dans The Danish Girl, qui endosse le légendaire débardeur de Lara Croft, sous la caméra de Roar Utog. Alors, je ne sais absolument pas si ça se prononce comme ça, mais on va dire que oui. Réalisateur norvégien, auteur notamment de la série de films d'horreur Cold Prey. Le film, lui, nous raconte comment Lara Croft, fille d'un célèbre archéologue, va reprendre l'héritage paternel pour partir à la recherche du tombeau mythique d'une reine japonaise sur une île cachée dans la mer du diable et empêcher que le monde, au passage, ne bascule dans le chaos. Est-ce que c'est ça, Stéphane ?
C'est ça, ouais.
Voilà. Stéphane sort de la projo et il est dans un état autre.
Non, bah c'est...
Verdict sur Tomb Raider.
Bah, c'est difficile d'attendre grand-chose d'un film comme ça. Oui. La bande-annonce était déjà quand même assez peu vendeuse, moi, je trouve. Et finalement, quand tu regardes le film, c'est exactement le même problème. Je me suis fait la réflexion en sortant du film. C'est basé sur le reboot, en fait, de Tomb Raider des années... Enfin, là, de 2013, en fait, qui était sorti en 2013, qui était une réinterprétation du personnage, quoi. Faut savoir que, bon, le personnage de Lara Croft, on le voit aujourd'hui avec du recul et on se dit bon bah c'est en gros c'est une bimbo avec deux flingues et certains arguments quoi. Le truc c'est que dans les années 90 il fallait déjà vraiment avoir arriver à se projeter quand même dans le perso parce qu'il fallait arriver à voir ça déjà dedans. C'était quand même un peu un pixel pas très bien foutu quoi. Mais c'est un personnage qui est assez intéressant parce que effectivement c'est un personnage extrêmement archétypal dans les années 90. Les jeux étaient sympas en soi, voilà. Mais là où le personnage je trouve est intéressant, c'est en termes de conception, c'est-à-dire que il est possible avec ce personnage-là, donc effectivement, de tirer quelque chose de qualité, comme l'a démontré pour moi le reboot de 2013. Mais à l'époque, en fait, les raisons pour lesquelles c'était une espèce de une version féminine d'Indiana Jones, on va dire, on va résumer ça comme ça. Dans l'esprit des développeurs quoi. Et ce qui était intéressant avec ce personnage là c'est qu'en fait ils se sont rendu compte qu'ils en ont fait une femme parce qu'ils se sont rendu compte que les joueurs masculins étaient plus prompts à faire attention
au personnage
et avoir de l'empathie en fait pour le personnage, enfin je trouve ça assez fascinant finalement quand tu réfléchis, parce que le truc c'est que ça peut tomber sous le sens en fait quand voilà, mais à une époque où le jeu vidéo était quand même encore assez balbutiant et qu'il fallait quand même trouver des moyens en fait de rendre l'aventure palpitante en fait au-delà même des boucles de gameplay finalement assez basiques quoi. Je trouve ça marrant que les types en fait y réfléchissent vraiment sous cet angle-là. Alors on peut y voir une certaine forme de cynisme mercantile là-dedans quoi. Mais voilà, mais le truc c'est que du coup en fait le personnage je pense est resté à cause de quelques traits iconiques hein, les deux flingues, le short, les lunettes, bon voilà, l'attitude un peu comment dire que finalement en fait a été très mal retranscrit je trouve dans les deux versions avec Angelina Jolie quoi, où le personnage est franchement détestable hein. Et là c'est pas le cas en fait dans cette version là. Le truc c'est que en se basant sur ce reboot là en fait il y a une idée, l'idée du reboot c'était vraiment de faire un survival pur et dur et en fait de faire une espèce de Lara Croft Begins où le personnage en fait à 20 ans n'est pas une aventurière. Elle est sportive, elle est ce que tu veux, elle est combative, mais ce n'est pas une aventurière en fait. C'est une aventurière en devenir, quoi.
Et d'ailleurs, même elle ne veut pas de cet héritage paternel.
Dans le jeu vidéo, c'est
il
comme ça aussi.
Que
ouais,
c'est
je
même,
sais plus. Parce que ça, c'est un truc prémisse, qui est mis dans l'intrigue en fait du film et qui est intéressant aussi. Mais moi, je me rappelais pas de ça dans le jeu. Et finalement, en fait, tout le jeu vidéo est un véritable chemin de croix. Et avec une certaine progression en fait qui fonctionne assez bien parce que elle apprend la chasse, elle apprend à utiliser les armes à feu. Il y a aussi en fait, il y a des tests assez. Enfin voilà, il y a cette fameuse scène de viol qui n'est pas un viol d'ailleurs, hein, puisqu'elle s'est pas violée dans le jeu, qui avait un peu décrié. Enfin, défait la chronique à l'époque parce qu'il y a eu pas mal de gens qui s'étaient un peu qui s'étaient dit on peut pas violer Lara Croft. Bon, on peut pas violer les gens, hein, tout court, mais voilà, apparemment ça avait posé un problème cette fois-là. Et le truc en fait c'est que tout ce parcours-là en fait est une vraie construction de personnages qui est finalement, moi je trouve, assez rare en fait dans le jeu vidéo et en tout cas qui soit aussi bien tenu. Et ça, on le doit, alors déjà il y a l'équipe de Crystal Dynamics qui avait refait, en fait ils avaient déjà fait des Tomb Raider dans la logique précédente, ça faisait quand même 15 ans que c'était les mêmes jeux, hein, vraiment basés sur les mêmes logiques, quoi. Et eux, ils avaient fait leur proposition parce que c'était tombé vraiment en désuétude, il n'y avait plus d'intérêt d'acheter ça après Uncharted et tout ça. Et eux, en fait, on sont arrivés à cette proposition-là, et surtout, en fait, un angle en tout cas, et surtout, ils sont venus chercher une scénariste qui s'appelle Rihanna Pratchett, qui est la fille de Terry Pratchett, le romancier anglais, et ils lui ont demandé, en fait, d'affiner le personnage au fur et à mesure, quoi. Et mine de rien, je pense que cette écriture, en fait, c'est cette écriture qui a permis de rendre vraiment le truc. Donc, la base originale de dire on essaye de s'attacher à ce perso-là, elle est vraiment respectée dans toutes les strates maintenant d'écriture, dans ce reboot. Malheureusement, la suite du jeu n'a pas forcément, enfin, le deuxième n'était pas aussi bien équilibré. Mais il se base sur ce jeu-là. Je tenais à faire cette grosse intro là-dessus. Pour expliquer comment, à mon sens, le film a juste pas compris du tout le jeu, mais surtout, encore une fois, même entre guillemets, le personnage qui finalement est fini par émerger dans ce jeu-là, quoi. Pourtant, ça commence plutôt pas mal. Enfin, on va dire que, en tout cas, sur le papier, déjà, elle est plutôt bien dans le rôle. Enfin, elle est plutôt, elle le fait, quoi. Ça se donne un peu, ça se voit. Il y a pas de souci là-dessus, quoi. Mais c'est effectivement un personnage qui écrit de manière à ce qu'elle refuse, en fait, parce qu'elle refuse la mort. Le personnage de Lara Croft, c'est Daddy Issues et compagnie. Hein. Il y a quand même le papa au milieu et l'héritage et tout ça. Et en fait, le truc, c'est que ça, c'était dans le jeu aussi. Et l'idée, en fait, si tu veux, que dans ce film-là, en fait, elle refuse l'héritage, c'est parce qu'elle refuse le fait que le personnage est, que son père est mort, en fait, tout simplement, quoi. Elle refuse, en fait, cette fortune parce qu'elle considère que ce n'est pas la sienne. Pareil, ça fait partie des trucs où ça rend le personnage finalement intéressant parce que tu te dis, bon, elle est dans une espèce de logique où elle veut mériter elle veut tracer sa propre destinée. Donc voilà, ça c'est plutôt pas mal. Mais le problème en fait, c'est que bon, arrive l'appel de l'aventure dans le film, et c'est là où le bas vraiment blesse, parce que d'un seul coup en fait, elle se retrouve comme dans le... Alors, le jeu commence vraiment sur le bateau le naufrage du bateau, elle qui survit, qui atterrit sur la plage, et en fait c'est elle est sur l'île, et on reste sur l'île, ça c'est tout le jeu. Là, ça prend à peu près 40 minutes déjà, avant d'arriver là. Et ces 40 minutes, pas toujours super bien meublées, parce que finalement, en fait, bah, y a une petite scène d'action par-ci, une petite scène d'action par-là, pour te montrer que quand même, elle sait faire de la savate, quoi. Et quand elle arrive...
C'est gentiment désuet.
Voilà. Mais le truc, en fait, si tu veux, c'est que quand elle arrive sur l'île, d'un seul coup, en fait, l'aspect épique du jeu... est ramenée à portions hyper congrues, quoi.
Ah oui.
Alors, dans le jeu, elle part avec plusieurs personnages, ça crée plusieurs situations. Dans le film, en fait, il y a un mec avec qui elle part. Basta. Donc du coup, bah, t'as beaucoup moins de trucs à raconter dans la deuxième partie. T'as l'impression que c'est tourné en décor, pas naturel quasiment la plupart du temps. Donc voilà, il y a pas, j'ai même pas envie de dire, il y a pas de vista épique, il y a même pas de mise en condition dans le décor en fait. Dans le personnage, en fait, c'est plus une question de survie, c'est plus vraiment un survival en fait. On est sur les rails de l'intrigue. Et après, bah, le problème, c'est qu'en fait, c'est écrit comme un film, quoi, vraiment, et vraiment comme un film, on va dire, pas très bien écrit. Le truc, c'est qu'ils font, Ouais, je suis désolé, bon, le film est sorti, donc les gens, voilà, mais ils font revenir le père, quoi, tu vois, et donc, du coup, tout un tas de trucs comme ça, ou qui sont complètement, qui, du coup, en fait, disloquent complètement ce que le film est censé raconter, en tout cas, ce qu'il racontait dans le jeu vidéo, enfin, ce qui était bien, je trouve, intégré dans le jeu vidéo, et voilà, et du coup, on se retrouve, en fait, avec une espèce de petite succession de scénettes d'action où ils essayent de raccrocher les wagons au... Alors, il y a 3-4 moments où ils essayent de refaire littéralement les scènes du jeu. Donc, t'as le naufrage... T'as une scène où elle tombe dans un rapide et en fait elle s'accroche à un jet en fait qui s'est crashé là quoi, qui est dans le jeu pareil, qui sont des gros ce qu'on appelle dans les jeux vidéo ce qu'on appelle les wow moments en fait, ce qui est un gros wow moments en fait du jeu et qui est là mais super cheap quoi parce que c'est tu vois le numérique à fond la caisse, tu vois tout le fil. Tout ce que le jeu a travaillé pour que tu ressentes en fait la viscéralité du moment, c'est exactement l'inverse quand tu regardes le film. Et ce qui est étonnant d'ailleurs de la part du mec, parce que le réalisateur de Colpré, en fait, c'est quand même un type qui est tourné en décor naturel et qui a fait des trucs comme ça. Donc c'est assez dommage en fait qu'il joue sur cette logique-là, quoi. Et alors après, l'autre problème, moi, je trouve, mais qui est bon, un problème, j'ai envie de dire contextuel, en fait, c'est que le jeu était assez violent. Justement parce qu'il jouait sur cette logique de chemin de croix. Et là, c'est complètement, passé à la trappe. C'est un PG-13, tout ce qu'il y a de plus consensuel. Avec pas seulement en termes de violence hein, aussi, mais en termes de qu'est-ce que tu peux raconter, quoi. Ce qu'ils appelaient la scène de viol dans le jeu, qui encore une fois n'en est pas vraiment une, mais qui effectivement pouvait laisser penser que ça allait risquer d'arriver quand tu regardais la façon dont le jeu était vendu, ils te la refont finalement là-dedans, mais avec littéralement zéro référence au fait que ce soit une possibilité. Ce qui fait que du coup, en fait, tu te retrouves avec un personnage qui passe d'une... Alors, elle sait un peu se battre parce que la scène d'ouverture, elle se bat justement, elle fait de la savate, elle fait de l'UFC avec une nana, mais elle se fait rétamer la gueule. Ce qui est bien, encore une fois, c'est un truc où tu te dis, bon, bah, on commence là et on va peut-être arriver à tu vois. Sauf qu'entre-temps, bah, dans l'intervalle, tu sais pas comment elle a appris à arriver à vraiment à se défendre, mais elle savate un type qui est un mercenaire surarmé, surentraîné en 2-2, quoi. Et voilà, tout le film, en fait, tout ce parcours progressif en fait moi en tout cas m'avait fait le sel du jeu est complètement passé à la trappe en fait, et du coup on n'est plus du tout dans une espèce de logique de Lara Croft Begins que t'aurais pu attendre de ce film, qui en plus joue un peu cette logique quand même, parce que par exemple le jeu, alors ça c'est un des trucs un peu ratés du jeu je trouve, mais le jeu jouait avec l'idée, parce que il faut se rappeler que l'une des phases de gameplay qui était intéressante dans Lara Croft, dans Tomb Raider à l'époque, le jeu de 96, c'était que tu pouvais jouer avec deux flingues en fait, oui. À la John Woo, tu vois, ce qui était plutôt sympa, parce qu'il n'y avait pas trop ça dans les jeux vidéo de l'époque. Et dans le reboot en fait de 2013, ils avaient intégré ça dans la dernière scène, dans le dernier moment du jeu, où en fait, en gros, si tu veux, c'était un clin d'œil pour les fans. Mais bon, t'avais une scène d'action comme ça, quoi. Donc on va dire que ça pouvait encore passer, même si je trouve que c'est pas forcément c'est enlevé un petit peu un truc constitutif du personnage. Là, c'est dans la scène finale, en fait, dans la scène post-générique. Ah. Et elle vient et elle achète les flingues, quoi. Tu vois, et elle les utilise pas à rien. Donc le truc, c'est que du coup, en fait, t'as cette espèce de logique de reboot sans vraiment écrire un reboot. Voilà. Et du coup, fondamentalement, ce qui est quand même finalement assez rare pour être souligné, c'est que les jeux généralement, moi je trouve que les jeux adaptés de films sont extraordinairement cheap, et finalement le cinéma a encore une longueur d'avance sur le jeu vidéo quand il s'agit parfois de faire du spectaculaire. Ça se
réduit de plus en plus.
Mais on va dire que quand t'as un film comme Avatar ou Pacific Rim qui sort, là d'un seul coup tu te dis d'accord, bon ça on attend de voir ça dans un jeu, quoi. Ou Mad Max, Fury Road par exemple, en termes de spectacle et de ressenti, tout ça. Là c'est l'inverse. C'est-à-dire que le jeu Tomb Raider de 2013 est 100 fois plus, je trouve, spectaculaire, prenant, intriguant et réussi en fait que cette version finalement édulcorée, cheap. Parce que là, tu vas pas me faire croire que c'est un gros budget, le film, c'est pas possible. Ça a l'air vraiment cheap au possible, quoi. Et finalement, même en termes d'enjeux, ramener vraiment à la portion congrue, quoi. C'est alors, est-ce que Lara Croft, elle va retrouver son papa, etc. Et voilà, ça s'arrête là, quoi. Et l'enjeu, enfin, la fameuse... la fameuse relique qu'ils sont censés trouver, c'est...
Expédié.
C'est expédié, puis en plus il y a une espèce de logique, de se demander si le surnaturel existe vraiment dans le film, et en fait, c'est bazardé complètement, ils s'en foutent complètement, alors que ça fait quand même, c'est pareil, dans le jeu vidéo, dans le reboot, c'était un petit peu ramené vers la fin, mais c'était assez, encore une fois, je trouve que c'était un peu trop léger pour être vraiment convaincant, mais là c'est même pas ça, c'est carrément sous-traité, voilà. Sinon, c'est toujours sympa, même s'il a rien à jouer, rien à défendre, c'est toujours sympa de voir comment il s'appelle. Shane de The Shield hein, dans le rôle du méchant quoi. J'ai oublié son nom, ce brave acteur. Pour moi c'est Shane dans The Shield. Voilà. Même si encore une fois c'est pas ça. Et puis c'est un film. J'ai du mal à croire que les mecs. On va voir si ça va marcher, mais j'ai du mal à croire que les types vont réussir à à faire en sorte qu'il y ait une suite vraiment à ça quoi. Si ce n'est que elle est très bien dans le rôle. Je pense qu'elle a quelque chose à défendre et s'il y avait vraiment une équipe derrière. Pour soutenir ça, ça pourrait lui donner un chouette rôle quoi. Enfin, une chouette franchise si tu veux quoi. Voilà quoi. Mais en tout cas, elle le fait quoi. Tu vois. Mais c'est bien grâce à elle parce que personne n'est là pour soutenir l'écriture, la mise en scène, le montage, la lumière. Moi, je vais pas citer tous les postes.
On a compris que c'était pas forcément ça. Donc Tomb Raider, pas forcément un grand conseil hein, pour aller voir. Netflix and chill. Prochainement. Ouais. Notre temps est écoulé. Merci beaucoup Stéphane, merci à Camille et Quentin, à la technique, à l'antenne Paris pour l'accueil. Binge.audio, le site de notre réseau de podcast Binge Audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très vite.